on l'invite à venir, ce que Dieu lui a mis à cœur.
Bonjour à tous. Alors, merci Sylvie. Alors, combien d'entre vous croient, sérieusement, hein, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ? Levez la main. Bravo. Moi, je le crois, qu'il y a plus de bonheur, plus de joie à donner. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Mais soyons réalistes une minute. J'ai affaire à une assemblée très spirituelle ce matin. Bravo. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'aime bien recevoir des cadeaux. J'aime bien quand on m'offre quelque chose, une boîte de chocolat, par exemple. Quand on m'invite au resto, quand on me donne quelque chose, je suis super content. Quand mon patron me donne une augmentation, ça fait plaisir. Et je crois que nous aimons tous recevoir. Mais Jésus dit que c'est encore mieux de donner. C'est plus béni de donner. C'est agréable de recevoir, mais il y a un bonheur à donner. Et la question, c'est pourquoi, selon vous ? Eh bien parce que lorsque nous donnons, nous reflétons le cœur de Dieu. L'Écriture le dit, hein, Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Alors faisons un petit jeu. Je donne la première lettre, la dernière lettre. Et vous trouvez le mot. Dieu est quoi ? En cinq lettres, ça commence par A, ça finit par R. Dieu est amour, bravo, 1 Jean 4. Que fait Dieu ? C'est toujours en cinq lettres, ça commence par D, ça finit par E. Dieu donne, bravo. Alors on va faire un petit raccourci, si Dieu est amour et que Dieu donne, peut-être on pourrait dire que l'amour donne. Et voyez, on pourrait peut-être représenter ce verset. Dieu t'a tant aimé le monde par ce petit mot croisé. Hop, qui va s'afficher sous vos yeux. Non, c'était avant. Voilà, merci. L'amour donne. Et c'est le sens de ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous recevions la vie éternelle. Dieu est amour, Dieu donne, l'amour donne. Alors, que fait l'amour ? L'amour donne. Dites-le à votre tour. Que fait l'amour ? Merci. Et vous connaissez cet adage. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Mais justement, à quoi on peut mesurer concrètement l'amour ? L'amour donne. Et peut-être que notre façon de donner reflète notre façon d'aimer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je le sais, vous le savez aussi, parce que tu aimes, tu as envie de donner. Mais certains se sentent bloqués. Il y a quelque chose qui les retient. Et cette chose qui les retient, c'est une forme de peur. Peut-être la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Est-ce que certains ressentent ou ont ressenti cette peur au fond d'eux-mêmes ? Moi, je me rappelle d'une période de ma vie où j'avais cette peur de manquer, de ne pas avoir assez. J'avais cette mentalité de manque, de pénurie, de déficit, de lacune. Alors, ce matin, je vais vous dévoiler mes intentions. Je ne vais pas vous prendre à revers. Je vais mettre toutes les cartes sur la table. Mon intention ce matin, c'est de construire la foi. Notre foi. De demander à Dieu de nous aider à changer notre mentalité sur notre manière de donner et donc sur notre manière de manifester notre amour. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup notre assemblée, parmi nous ce matin, il y a des exemples dans ce domaine, des gens qui donnent, qui se donnent, des hommes, des femmes généreux qui donnent leur temps, leur argent, leur vie pour le Seigneur et pour les autres, y compris pour les non-croyants. Et c'est un point fort de notre assemblée depuis longtemps. Pour que l'Évangile progresse, pour que l'amour de Dieu manifesté en Jésus soit connu et reconnu. Et souvent, Paul, dans ses lettres, il encourage et il félicite ses lecteurs. Il relève leurs points forts et il dit « Bravo, mais continuez, progressez encore. » Et voilà mon intention ce matin. Notre assemblée, elle est forte dans le domaine du don, de la générosité. Et nous avons fait des belles choses, nous pouvons en être fiers. La soirée du cœur, l'aide discrète au milieu de nous pour les personnes qui en ont besoin. On est une église qui est généreuse. Par exemple, depuis septembre, il y a la main tendue pour les étudiants. Et moi, je suis émerveillé à la fois de cette nouvelle action envers le monde et à la fois, je suis émerveillé par la réaction de l'ensemble de l'Assemblée qui soutient, qui donne tout cela pour ça. Et il y a tellement d'exemples que je pourrais citer de la vie de notre Église. Et je crois que la générosité gratuite, c'est un atout majeur pour faire la différence en tant que chrétien dans notre monde aujourd'hui. Mais comme le dirait Paul l'apôtre, nous vous encourageons à progresser encore. Et peut-être ça peut aussi entraîner certains qui ne sont pas encore entrés dans cette dimension. Alors pardonnez-moi ce matin, je vais vous bousculer un petit peu, je vais donner un petit coup de coude. Et je vais dire la vérité. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, on n'a pas un problème d'argent. On a un problème de mentalité. Dieu appelle chacun, chacune d'entre nous à donner. Parce que fait l'amour ? L'amour donne. Prions. Père, je te demande que par la puissance de ton esprit, la vérité de ta parole, tu puisses renouveler nos esprits pour ne pas vivre avec une mentalité de manque, de ne pas avoir assez, mais que tu nous donnes une mentalité d'abondance, car c'est toi notre Dieu qui pourvoit. C'est toi le Seigneur qui est mon berger et je ne manquerai de rien. Merci parce que tu as déclaré qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bénis-nous, augmente notre foi pour donner. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors ce matin, je vous propose de lire un magnifique texte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, j'imagine. C'est dans Corinthiens, les chapitres 2 Corinthiens, les chapitres 8 et 9. Alors on ne va pas tout lire, mais je vous invite à le relire à la maison. Et pour le lire, je vais inviter quelqu'un, c'est Hélène, ma meilleure moitié, à me rejoindre. Et pendant qu'elle est là, ah ben voilà, j'avais prévu que tu t'approchais, et pendant que tu t'approchais... Et pendant que tu t'approchais, j'avais dit, je vais vous donner un petit contexte, un petit aperçu du contexte. Attends. Paul, donc, c'est celui qui écrit cette lettre aux Corinthiens. La ville de Corinthe, elle existe encore aujourd'hui, c'est en Grèce. Bon, Paul, vous le savez, il était juif. Et quand il a été sauvé, Dieu l'a appelé à apporter l'évangile, la bonne nouvelle, aux gentils. Les gentils, c'est comme ça que les juifs appelaient les non-juifs. Et ça a créé des tensions. Paul raconte ça, par exemple, dans la lettre aux Galates. Il y a beaucoup de juifs qui pensaient que la foi en Christ était réservée aux juifs. Et Paul a démontré que l'évangile était pour tout le monde, y compris pour les non-juifs. Et ça tombait bien, parce que d'ailleurs, à cette époque, il y avait beaucoup plus de non-juifs que de juifs. Et ça tombe bien, parce que c'est encore le cas à notre époque. Jésus est venu pour les juifs et pour les non-juifs. Et il y a eu une énorme controverse. Et cette controverse, elle a ébranlé les églises de l'époque. Et que faire ? Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Et donc, ils ont décidé de porter ça devant les autorités reconnues de l'époque. C'était les dirigeants de l'église de Jérusalem, les apôtres qui avaient vécu avec Jésus. Donc, il y avait Jacques, le frère de Jésus, puis il y avait Pierre, Jean qui étaient là aussi. Paul, il raconte tout ça dans Galates 2. Et au final, ils ont décidé la chose suivante. Oui, Paul, tu peux continuer à annoncer l'évangile aux non-juifs. Mais à une condition, tu devras leur dire de se souvenir des pauvres. C'est Galates 2:6. Et Paul a dit, oui, c'est ce que je vais faire. Se souvenir des pauvres, c'est un encouragement à la générosité. Et bien des années plus tard, il y a une grande famine à Jérusalem et en Judée, et Paul s'est souvenu de ça. Il a organisé une chose incroyable. Il a invité toutes les églises qu'il avait fondées, que ce soit en Asie mineure, en Europe, en Turquie, en Grèce, en Macédoine, à faire quelque chose d'inédit, collecter de l'aide, de l'argent pour aider les chrétiens de la Judée, la région autour de Jérusalem qui était dans le dénuement, dans la pauvreté à cause de la famine. C'était il y a 2000 ans, une aide internationale d'urgence inventée par Paul pour que les chrétiens de tous les pays aident les chrétiens d'un autre pays. Et Paul et ses amis, ses collaborateurs, ils se sont chargés eux-mêmes de passer d'église en église pour récolter les choses et acheminer cette aide fraternelle dans la Judée à Jérusalem. Alors, dans le passage que Hélène va nous lire, tu vois, tu aurais eu le temps de venir trois fois. Et donc, c'est ça qui est intéressant, vous allez le découvrir. Paul écrit aux Corinthiens, donc la deuxième lettre aux Corinthiens, il leur écrit l'année d'après la première récolte, la première collecte. Et donc, la famine, elle continue à sévir. Et Paul continue à animer, à donner réalité à cette aide internationale d'urgence entre chrétiens de différents continents. Alors, à toi, c'est ça.
Frères et sœurs, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Elles ont été éprouvées par de sérieuses détresses. Mais leur joie a été si grande qu'elles se sont montrées extrêmement généreuses, bien que très pauvres. J'en suis témoin, elles ont donné selon leurs possibilités et même au-delà, et cela de tout leur cœur. Avec beaucoup d'insistance, elles nous ont demandé, comme une grâce, de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. Elles ont fait plus que nous espérions. Elles se sont d'abord données au Seigneur, et ensuite, par la volonté de Dieu, également à nous. C'est pourquoi nous avons prié Tite de mener à bonne fin, chez vous, cette œuvre généreuse, comme il l'avait commencé. Vous avez tout en abondance, la foi, le don de la parole, la connaissance, un zèle sans limite et l'amour que nous avons éveillé en vous. Par conséquent, nous désirons que vous abondiez aussi dans cette œuvre généreuse. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais c'est en vous parlant du zèle des autres, je vous offre l'occasion de prouver la réalité de votre amour, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Je vous donne mon opinion dans cette affaire. Il est bon pour vous de persévérer. Vous qui, l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à agir, mais encore à décider d'agir. Maintenant donc, achevez de réaliser cette œuvre. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis à la décider, et cela selon vos moyens. Car si l'on met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert, en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas pour vous de tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais c'est une question d'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance, ce qui vous permet de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. De la même façon, si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils viendront en aide. Ils vous viendront en aide, pardon. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce que l'Écriture déclare. Celui qui en avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, et celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas.
Merci beaucoup. Alors ce texte, il est très étonnant. Il est magnifique. On trouve un Paul qui est à la fois pressant et touchant, et en même temps qui laisse libre. Et moi, je trouve qu'en parallèle de ce qui est dit, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais ce passage, il motive. Il donne envie de se lever, de s'y mettre. Alors, Paul, il met le focus au début sur l'attitude des gens de Macédoine. Les gens de Macédoine, ils étaient pauvres. Les gens de Corinthe, ils étaient riches. Et Paul indique qu'il a été époustouflé, estomaqué par la générosité irrationnelle de ces gens de Macédoine. Il le fait remarquer aux gens de Corinthe. Ça commence ainsi, frères et sœurs, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Le mot grâce, il est présent au moins 10 fois dans les chapitres 8 et 9. Donner, c'est une question de manifester la grâce. Et les gens de Macédoine, donc c'est le verset 2, hein, les églises, les gens, les personnes, elles ont été éprouvées par de sérieuses détresses. Mais leur joie était si grande qu'elles se sont montrées extrêmement généreuses, bien que très pauvres. Donc on a là une info sur les églises de Macédoine à cette époque. Et voilà deux choses qu'on apprend. La première, c'est qu'ils étaient très pauvres, mais irrationnellement généreux. Alors quand le texte dit qu'ils étaient très pauvres, ce n'est pas vraiment comme certains d'entre nous qui se disent « Ah ben avec l'inflation, hein, j'ai plus trop les moyens de me payer à la fois Netflix, Canal+, et Disney+. Je crois que je vais laisser tomber Disney+. » Quand la Bible dit qu'ils vivaient dans une extrême pauvreté, en grec, le mot utilisé, c'est le mot des profondeurs de la mer, « batous ». Ça veut dire que ces gens souffraient profondément financièrement. Ils étaient très, très pauvres. Et pourtant, ils étaient irrationnellement généreux. Et la deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'ils avaient subi des épreuves et des multiples détresses. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils débordaient de joie. Ils étaient dans une période vraiment difficile de leur vie, dans la pauvreté, la souffrance. Et pourtant, dans leur pauvreté, ils étaient généreux. Et dans leur souffrance, ils avaient encore de la joie. Alors c'est intéressant parce que nous, souvent, lorsque nous ressentons un manque, nous pouvons être déprimés, nous pouvons être anxieux. On pourrait égoïstement se protéger et protéger tout ce que nous avons. Mais pour les Macédoniens, même si la vie était dure, ils étaient généreux, ils étaient joyeux. Pourquoi ? Parce qu'ils donnaient. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi ? Parce qu'ils aimaient. Et que fait l'amour ? L'amour donne. Alors moi, ça me pose question, ces Macédoniens. Ils avaient quasiment rien, ils étaient très généreux. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ces gens, qui étaient si généreux, comment ils pouvaient donner autant alors qu'ils avaient peu ? Et je crois que la réponse, c'est qu'ils avaient une mentalité différente, une façon de penser différente. Et beaucoup d'entre nous, je le disais tout à l'heure, on n'a pas un problème d'argent, on a un problème de mentalité. Et alors, on pourrait dire de manière imagée, il y a deux mentalités, deux états d'esprit, deux manières de penser. La première, c'est la mentalité de sac, avec des petits trous. Et la seconde, c'est la mentalité de grenier. Alors, c'est compliqué de trouver une image de grenier sur Internet. Bon, là, j'ai mis une image de grenier sur Piloti, hein, pour protéger des rongeurs. Voilà. Alors, commençons par la mentalité de sac. Bon, je la connais bien, celle que j'ai eue pendant des années. Et la mentalité du sac, elle croit que nous n'en avons pas assez. J'aimerais donner plus, mais j'en ai pas assez. Et peut-être certains d'entre vous peuvent ressentir la même chose. Alors, il y a plusieurs textes dans la Bible qui parlent de ça. Alors, par exemple, j'en ai choisi un là, dans le prophète Agée, dans l'Ancien Testament. Et maintenant, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Réfléchissez bien à ce que vous vivez. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est faible. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltéré. Vous vous habillez, mais vous n'avez pas assez chaud. Et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'un sac percé. Dans d'autres traductions, c'est qu'une bourse trouée. Et c'est ça la mentalité de sac. Celui qui gagne un salaire, il le met dans son sac, mais il y a des trous. Et peu importe ce qui rentre dans le sac, comme il y a des trous dedans, à la fin du mois, il ne reste plus rien dans le sac. Et en d'autres termes, quand je veux donner, ben, je n'ai pas assez. Alors on imagine que quand j'aurai plus, ben, je pourrai donner. Ça, c'est la mentalité du sac. La deuxième mentalité, le deuxième état d'esprit, c'est celui du grenier. Le sac dit « j'ai pas assez », mais le grenier dit « j'ai suffisamment et j'ai même plus qu'assez ». Lisons Deutéronome 28,8. Ce verset, voilà ce qu'il dit, si nous obéissons au Seigneur. Que va faire Dieu ? Le Seigneur, ton Dieu, protégera tout ce que tu auras amassé dans tes greniers. Il fera prospérer tout ce que tu entreprendras. Oui, il te comblera de bienfaits dans le pays qu'il t'accordera. C'est ça la mentalité de grenier. Si on lit les versets d'après, je ne les ai pas écrits, mais tu vous retrouverez dans Deutéronome 28. Si tu mets en pratique les commandements du Seigneur, ton Dieu. Si tu obéis à sa volonté, le Seigneur accroîtra tes biens et tes récoltes seront abondantes. Pour toi, le Seigneur ouvrira les cieux afin de il garde l'eau comme un trésor afin de faire pleuvoir sur ta terre en temps voulu et de te faire prospérer tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est ça que les gens de Macédoine vivaient. Ils avaient la mentalité de grenier. Ils n'avaient pas grand-chose, mais leur mentalité, ce n'était pas le sac. J'ai pas assez. Non, ils avaient la mentalité de grenier. Nous avons suffisamment et nous pouvons donner. Nous n'avons pas à attendre plus tard, nous n'avons pas à attendre d'avoir plus. Nous pouvons réellement donner maintenant. C'est la mentalité de grenier. Alors peut-être beaucoup d'entre nous, on est à l'opposé. Moi, j'étais comme ça pendant des années. Je n'avais pas un problème d'argent, j'avais un problème de mentalité. Une mentalité de sac. Que se passe-t-il quand on a l'esprit de sac ? La mentalité. Alors on est dans un cercle vicieux. Voyez-vous, Dieu nous donne, Dieu pourvoit. Et alors on a de l'argent, on a ce qu'il faut, donc on se met à consommer. On se met à dépenser, à sortir, paf, on va sur Amazon, sur Vinted, on clique, on achète, on achète, on achète. C'est la période des soldes, alors bien que nos placards soient remplis d'habits, on va consommer des habits, nous consommons. Et parce qu'on consomme, au bout d'un moment, on manque. On dépense tout ce qui vient à nous et on a l'impression de ne pas en avoir assez. Et parce que nous avons consommé, parce que nous n'avons plus, alors nous avons peur. Ah, je n'irai pas assez. Et c'est un cercle vicieux, la mentalité du sac continue d'évoluer. Et Dieu continue, lui, à pourvoir, à nous donner. Et nous le dépensons, nous le consommons, nous n'avons pas assez, nous avons peur, et ça continue, et ça continue. C'est ça la mentalité du sac. Et donc il y a une autre mentalité, la mentalité de grenier. Au lieu de consommer en premier, la mentalité du grenier, elle pense à quoi ? Elle pense à donner. Donner en premier. Pourquoi donner en premier ? Que fait l'amour ? L'amour donne. Et c'est un état d'esprit complètement différent. Alors par exemple, on trouve cette mentalité de grenier dans Proverbe 3:10. Qui va nous dire que faire ? Quelle est la première chose à faire ? Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui les prémices de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Alors dans l'Ancien Testament, c'était un monde agricole, mais vous comprenez la métaphore avec les prémices. Les prémices, c'est la première partie des récoltes. La prémisse de tes récoltes, vous honorez le Seigneur. Et quand tu donnes à Dieu en premier, qu'est-ce qui se passe ? Les greniers sont remplis, les cuves débordent avec du vin nouveau. Et c'est la première chose qu'on fait si on a la mentalité de grenier, c'est donner, parce que l'amour donne. Tu honores Dieu en premier avec ce qu'il te confie, et ensuite tes greniers vont déborder. Alors donner les prémices, comment l'interpréter de nos jours ? Bah, je pense que c'est très très similaire à ce que nous appelons la dîme. La dîme, c'est quelque chose de très très ancien, c'était même avant la loi de Moïse. Dans l'Ancien Testament, puis on retrouve dans le Nouveau Testament, pratiquer la dîme, ça concerne notre offrande à Dieu. C'est offrir à Dieu 10% de ce qu'il nous confie. Et quand vous faites votre offrande, est-ce que vous donnez au début du mois, au milieu ou à la fin ? Alors si vous avez la mentalité de sac, à la fin, vous n'aurez plus rien à donner. Et la Bible donc nous propose que nous donnions au début, en premier. Donner la toute première partie, en premier lieu. Les 10% les offrant à Dieu dans un acte d'adoration. Et c'est la manière dont on va honorer Dieu. Dans Malachie 3:10, c'est probablement le verset le plus célèbre, il dit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. C'est très très surprenant cette invitation de Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve. Parce que Jésus nous encourage à ne pas le faire du tout, sauf dans ce domaine. Mets Dieu à l'épreuve, teste-moi là-dessus, dit le Seigneur, et tu verras. Si je ne vais pas ouvrir les écluses du ciel, si je ne vais pas déverser dans ta vie tant de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour le ranger dans ton grenier. Apportez votre offrande, votre dîme en premier et apportez aussi le meilleur de vous-même. quand vous apportez vos premiers revenus et le meilleur de vous-même, alors vous faites confiance à Dieu et il va bénir le reste. Alors là, regardons le cercle vertueux de la mentalité de grenier. Dieu pourvoit, ça, ça ne change pas. Mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on donne. Et Dieu dit, ben, je vais multiplier. Je vais multiplier. Et ça, ça construit notre foi. Et donc, du coup, ben, Dieu continue à pourvoir. Et donc, on continue à donner, on donne plus. Et Dieu multiplie davantage. Et ça construit encore plus notre foi. Voilà, nous pouvons entrer dans cette mentalité de grenier. Alors, je vous dis ça, il y a peut-être encore une fois quelques-uns parmi nous là qui sont là dans l'Église depuis quelques mois, quelques années. Et dans notre Église, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la mentalité de sac et qui ont reçu, qui se sont accaparés la mentalité de grenier. En donnant leur offrande à Dieu, non seulement leur dîme, mais bien plus, mais aussi leur talent, leur temps, leur vie, notre communauté, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui grâce à cela. Regardez par exemple la maison des parents pour bénir les familles des personnes hospitalisées. Et tout ça, ça s'est fait avec le don de la communauté, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et l'objectif, c'est de rayonner non seulement à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur. Et notre communauté, les gens qui étaient là avant, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, leur temps, leur argent. Et pourquoi ? Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être encore et toujours plus généreux. Alors peut-être certains d'entre vous se disent, bah oui, t'es gentil Loïc, mais quand j'aurai plus d'argent, bah, je serai plus généreux. Eh bien, c'est une petite erreur, les amis. Avoir plus d'argent, ça ne te rendra pas plus généreux. Ça te rendra plus semblable à ce que tu es déjà. Si tu es généreux maintenant, ben avoir plus d'argent, ça va te rendre plus généreux. Mais si tu es un rat, une pince, un grippe-sou, un sale radin égoïste, maintenant, et ben avoir plus d'argent, ça te rendra davantage rat, grippe-sou, etc. Je vais vous dire la vérité, l'argent, ça ne change pas les cœurs. L'amour, oui. Et que fait l'amour ? L'amour donne. Et donc, la première chose que nous faisons, c'est d'honorer Dieu avec ce qu'il nous donne. Et les Macédoniens, ils avaient compris ça. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils ont donné gros. Ils avaient la mentalité de grenier. Et alors, ce qui est dingue, c'est que peut-être certains d'entre nous, on a la bénédiction du grenier, mais on a toujours la mentalité du sac. Certains d'entre nous ont tellement, et ils donnent si peu. Alors oui, nous donnons notre offrande, mais bon, les impôts, ils nous en remboursent une bonne partie. Les études montrent que les gens les plus riches sont souvent ceux qui donnent le moins. Oui, certaines personnes très riches sont très généreuses, mais la majorité des gens très riches sont très avares. Et la raison, c'est qu'ils ne croient qu'ils n'ont jamais assez. Et Jésus nous dit, attention, Jésus nous donne une mise en garde, gardez-vous de l'avidité. Pourquoi devons-nous faire attention ? Parce que l'argent, c'est une contrefaçon de Dieu. L'argent nous promet ce que seul Dieu peut donner. L'argent dit, eh, si tu as suffisamment d'argent, tu seras en sécurité. L'argent dit, eh, si tu as beaucoup, tu vas être en paix. L'argent dit, si tu as beaucoup d'argent, tu vas être important. Et seul Dieu peut donner tout ça. La vraie paix, parce qu'on connaît plein de gens qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas la paix dans leur cœur. La vraie sécurité, tu peux avoir beaucoup d'argent à la banque, mais tu tombes malade. Ce n'est pas ton argent qui va te guérir. Et il n'y a que Dieu qui peut te rendre important. On connaît tellement de situations de gens qui ont une très grande fortune dans notre société, mais qui se sentent toujours loin de Dieu, qui se sentent toujours insignifiants. L'argent, c'est une contrefaçon de Dieu. Il promet ce que seul Dieu peut fournir. Et donc, Paul, quand il parlait aux Corinthiens, il disait, vous devriez rencontrer ces Macédoniens. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils étaient tellement généreux. Et voilà ce qu'il écrit à la fin là, du passage qu'on a lu dans le chapitre 9. Dans le chapitre 8, hein, il dit, voilà, j'en suis témoin. Les églises de Macédoine, elles ont donné, selon leurs possibilités et même au-delà, de tout leur cœur, avec beaucoup d'insistance, elles nous ont demandé, comme une grâce, de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. Et elles ont fait plus que nous espérions. Elles se sont d'abord données au Seigneur, et ensuite par la volonté de Dieu également à nous. En d'autres termes, Paul ne leur demandait pas ça, mais eux, ils ont imploré Paul de participer au service du peuple du Seigneur. On n'a pas grand-chose à donner, mais on veut vraiment donner. Et Paul, il dit, ils ont dépassé nos espérances. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont donnés au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont réorganisé leur vie. Ils ont redéfini leurs priorités de leur vie tout entière, de leur cœur, de leur bien, de leur temps. C'est puissant. Et ils supplient Paul. Ils font une plaidoirie. C'est une plaidoirie urgence. Pouvons-nous donner? Je sais que peut-être dans notre situation, on n'aurait pas à le faire. Parce que nous sommes extrêmement pauvres. Mais nous le voulons. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que l'amour donne et parce qu'ils n'avaient pas une mentalité de sac, mais de grenier. Ils avaient compris la vérité à ce sujet, que Dieu, c'est Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Alors donc dans la suite là, du texte, dans chapitre 9 de Corinthiens, Paul il écrit ça. En fait, celui qui s'aime peu moissonnera peu. Et celui qui s'aime largement moissonnera largement. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours, à tous égards, de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ainsi qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure pour toujours. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin et au-delà, il nous donne le superflu. Et Paul écrit ailleurs, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Dieu a le pouvoir de nous combler. Laissons tomber la mentalité de sac qui a des trous, qui est percé et qui nous maintient dans la peur du manque. Adoptons la mentalité de grenier. Mettons Dieu à l'épreuve dans ce domaine. Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin. Et encore plus pour faire le bien, pour donner encore en cours, car l'amour donne. Alors les gens du monde, hein, s'ils m'écoutaient, ils se diraient, il est complètement fou ce vieux chauve. Hein. Mais c'est la force de notre témoignage dans le monde. Une générosité irrationnelle aura de l'impact autour de nous, parce que nous croyons sincèrement qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous invite à prier. Père, tu nous as aimés le premier et tu nous as donné Jésus, ton Fils, qui s'est lui-même donné pour nous. Tout cela par amour, car ton désir est de nous avoir avec toi sur cette terre, mais aussi pendant toute la vie éternelle. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre force. Aide-nous à aimer ton peuple, tes enfants. Aide-nous à aimer le monde comme toi tu aimes le monde. Dieu, construit notre foi. Change notre état d'esprit, notre mentalité de sac. Délivre-nous de cette mentalité de sac et donne-nous la mentalité de grenier pour que nous puissions devenir généreux comme toi tu es généreux et bon, bienveillant et que nous puissions te ressembler dans l'Église et dans le monde. Je te prie pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait le pas de foi de la dîme, donne-leur de pouvoir te tester, de t'éprouver dans ce domaine. Merci pour cette permission de te tester. Donne-nous la mentalité de grenier. Construis notre foi pour t'aimer et aimer les autres d'un cœur généreux. Merci parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus, afin que celui qui croit en lui reçoive la vie éternelle. C'est le plus généreux des dons, et c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Et je te prie ce matin pour celles et ceux qui n'ont pas encore offert leur vie à Dieu. Si ce matin tu n'as pas offert ta vie à Dieu, je t'invite à commencer par là. Dire à Dieu, oui, je te donne ma vie. Merci parce que tu as pourvu pour que je sois sauvé. Je reçois ton pardon. Je me donne à toi, Jésus. Amen.
Merci Loïc. Si la louange veut revenir, enfin si elle ne veut pas, j'espère qu'elle veut. C'est vrai, on a des mots comme ça, hein, on a l'habitude, elle veut revenir, elle ne veut pas revenir. L'équipe de louange, oui, parce que la louange, ça ne veut rien dire. Très bien, ben, merci Loïc pour ce message. L'amour donne.